La véritable irrégularité dans la guerre irrégulière, c'est pas le fait qu'il y en ait un qui dispose d'un armement supérieur, c'est qu'il y en a un qui dispose idéologiquement d'une motivation beaucoup plus grande. Donc c'est un fiasco complet, la politique américaine.
Gérard Chalian, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'étude des conflits armés, des relations internationales. Comment expliquer la décision de la Turquie d'ouvrir ses frontières ?
C'est un chantage, très simple. La Turquie a besoin d'argent. La situation économique est médiocre. En fin de compte, tout marchait très bien en Turquie jusque vers 2010. Et depuis une dizaine d'années, il y a une crise financière sérieuse. La livre, 20% de perdu. Les succès politiques, même chose. Par exemple, l'AKP, qui était un parti qui marchait bien, a perdu les élections il n'y a même pas 2 ans à Istanbul, à Ankara, deux villes fondamentales. Monsieur Davutoğlu, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères, a quitté le parti pour faire un parti concurrent. Monsieur Babacan, de même. Monsieur Gül, l'ex-président, également. En d'autres termes, il y a une crise interne, politique, et surtout une crise financière et économique. Bon, que fait Monsieur Erdogan ? Il prend l'offensive. C'est-à-dire que, pour rétablir son aura, il faut qu'il attaque. C'est le succès qu'il a eu avec sa politique en Syrie, ça l'a rendu extrêmement populaire. Après ça, il a enchaîné immédiatement sur la présence en Libye, en disant voilà, bon ben, nous rétablissons les moyens de la Turquie comme ils étaient avant la défaite de 1920. Nous sommes partout, etc. Il a des prétentions maritimes autour de Chypre. Il y a cette pression considérable auprès des Européens pour que les Européens payent encore. Madame Merkel est encore allée il y a très peu de temps pour monter de 1 ou 2 milliards. Et tout récemment, il a fait pénétrer un certain nombre de réfugiés dans l'île de Lesbos, qui se trouve à 2 pas d'ailleurs des côtes anatoliennes. Donc il est un peu partout, il y va très fort et il marche à la pression et au chantage.
D'accord, donc est-ce qu'on peut craindre une crise migratoire en Europe ?
Les Européens la craignent. Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a des limites que M. Erdogan ne doit pas franchir, parce que dans cette affaire, il n'est pas le maître du jeu. Lui aussi dépend de l'Europe. Ces échanges se font essentiellement avec l'Europe. Nous sommes le marché essentiel de ce qu'il produit. Si nous avions davantage d'unité, si nous avions davantage de volonté, on pourrait certainement contraindre la Turquie. Mais on ne l'a pas. Disons qu'on a une Europe molle qui cède au chantage et qui essaye d'acheter en quelque sorte sa sécurité, sa paix.
Et d'ailleurs, comment les Européens pourraient sévir face à Ankara ?
Ben, il pourrait décider que, par exemple, l'Europe se ferme au marché turc, qu'ils aillent vendre ailleurs. Il ferait quoi ? Ce ne serait pas un embargo, mais ce serait en quelque sorte « débrouillez-vous par ailleurs ». Donc il y a des moyens de pression. Je suis sûr que si, par exemple, la Russie se trouvait à la place de l'Europe, avec la volonté, il pourrait certainement stopper la Turquie.
D'ailleurs, cette décision du président Erdogan d'ouverture des frontières est intervenue suite à la mort de 33 soldats turcs tués à Idlib le 27 février. Qu'est-ce qui se passe à Idlib ?
Il se passe très simplement que la Russie, conjointement au régime de M. Bachar, a l'intention très nette de nettoyer cette région d'Idlib, qui est essentiellement une région soutenue par la Turquie, avec à l'intérieur des éléments islamistes de diverses obédiences. Bon, ils veulent nettoyer ça. Ça dérange évidemment la Turquie, ça va leur faire en plus du réfugié, en plus ce sera très difficile de dire bon, ben, nous n'avons pas réussi à maintenir la position que nous avions gagnée. Donc il y a une tension russo-turque sur ce chapitre-là, de la même façon qu'il y en a une plus grave en Libye, puisque Russes et Turcs ne soutiennent pas le même camp.
Et donc, qui peut céder entre la Syrie et la Turquie ?
À mon avis, les Russes ne céderont pas.
D'accord. Est-ce que, donc, on a vu que 54 soldats turcs ont été tués en février à Idlib, est-ce que c'est dangereux pour l'opinion publique en Turquie ?
Mais autrefois, les Turcs étaient beaucoup moins sensibles aux pertes humaines. Dans le nettoyage qu'ils faisaient, par exemple, des régions kurdes, bon, il y avait des morts du côté turc. C'était assumé. Aujourd'hui, ils sont devenus de plus en plus regardants. Ils préfèrent que ce soit des troupes de substitution d'origine étrangère, envoyer des islamistes d'origine diverse pour faire le travail au sol, eux se contentant essentiellement de la partie aérienne. Et alors effectivement, ça fait beaucoup de gens d'un seul coup, c'est un choc. Et pour M. Erdogan, ça sonne, oui, c'est une sonnette d'alarme. Il ne faut pas que les pertes se multiplient dans la mesure où l'opinion publique y est sensible.
Vous parliez d'islamistes à Idlib. Qui sont ces rebelles, en fait ?
Bon, il y a des gens qui appartenaient à Al-Qaïda, qui ont changé de sigle. Enfin, c'est les Al-Qaïdaïsques. Il y a aussi d'autres mouvements islamistes qui portent d'autres sigles que les gens ne connaissent pas. Mais enfin, tout ça, grosso modo, c'est du matériel pro-turc, de façon à asseoir leur pouvoir sur une partie non négligeable de la frontière septentrionale.
Et est-ce que Daesh et Al-Qaïda ont toujours des moyens de nuire au Moyen-Orient ?
Oui, bien sûr. Les moyens de nuire, ils ont. Ils n'ont plus la capacité...
D'avoir un territoire
Voilà, c'est ça, de contrôler un territoire. Mais par contre, ils peuvent se mouvoir, ils peuvent frapper, ils frappent d'ailleurs. Et ils sont actifs non seulement à Idlib, mais ils sont également actifs à la frontière de ce qu'on appelle le Kurdistan d'Irak. Il y a des zones très fragiles autour de Kirkuk, autour de Mossoul, où il y a d'ailleurs des majorités sunnites. Donc rien de tout cela n'est vraiment fini. On est dans une phase où il y a eu une régression très nette des moyens de Daesh, bon, mais pas leur disparition.
Quelle est la position des Kurdes syriens dans cette confrontation ? Est-ce que les Kurdes syriens se sont ralliés à Damas ?
Ben, ils n'ont pas eu le choix. D'abord, au début, ils avaient joué la carte américaine. Puis ils se sont aperçus que les Américains n'avaient pas l'intention de les soutenir. Et ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller voir les Russes pour demander aux Russes d'intercéder en leur faveur auprès de M. Bachar, qui en principe se montrait inflexible en disant « Oui, vous pouvez venir, mais sans armes ». Il n'était pas question pour les Kurdes de laisser leurs armes et de se ranger du côté de Bachar en position de faiblesse. Donc aujourd'hui, les Kurdes de Syrie ont réussi à sauver leur organisation, leurs moyens militaires. Ils n'ont pas accepté la confrontation militaire avec la Turquie et ses forces alliées, où ils auraient été écrasés par la supériorité aérienne de l'adversaire, les drones, etc., etc. Donc leurs forces sont quasiment intactes. Ce qu'ils ont subi, c'est en fin de compte un repli de leur population. Peut-être 200 000 réfugiés de la frontière se sortiraient vers le sud. Ça n'empêche pas qu'il y a de larges fractions de la zone occupée par les Kurdes depuis longtemps qui restent sous contrôle de la Turquie. Par exemple, Kobané, c'est kurde. Kamishli, c'est kurde. Il y a d'autres villes comme ça qui sont également kurdes et où, en principe, ils n'ont pas du tout l'intention de dételer.
Où en est la Syrie? Est-ce que la guerre civile est terminée, selon vous?
Non, non, la guerre civile n'est pas terminée. Puis surtout, à l'évidence, l'économie est réduite en miettes. Leurs soldats, par exemple, je parle des soldats de Bachar al-Assad, sont moins bien payés que les militants kurdes. Comment on va reconstruire le pays? Qui va payer? Par les États-Unis? Par la Russie? La Turquie moins encore? Donc,
peut-être la Chine?
Ouais, est-ce que la Chine a vraiment intérêt à s'embarquer dans une histoire de ce type alors qu'ils se sont prudemment tenus en dehors? Moi, je ne pense pas.
Comment analyser la politique russe au Moyen-Orient? Est-ce que c'est la Russie qui a fait gagner la guerre en Syrie?
Oui. La guerre en Syrie a été gagnée au sol par l'Iran, grâce à ses milices. Milices venues d'Irak, milices venues d'Iran, milices venues même du Pakistan et de l'Afghanistan. Donc il y a eu cette force milicienne au sol, et puis il y a eu les bombardements organisés par les Russes entre 15 et 16, 2015-2016, qui ont été extrêmement importants. La Russie a joué un rôle décisif, avec des moyens relativement réduits, mais une volonté très ferme.
Donc, grâce à la Syrie, la Russie est devenue un acteur, redevenue un acteur de premier plan au Moyen-Orient?
En tout cas, en Syrie, c'est indiscutable, et au Moyen-Orient, c'est sensible, sans être décisif.
Justement, en Syrie, elle essaye de, à la fois, ménager ses partenaires entre l'Iran et Israël. Comment c'est possible?
C'est possible grâce à l'habileté tactique de M. Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il ne fait rien qui puisse déranger Israël. Rien. Ça lui arrive de calmer le jeu du côté des Iraniens, mais il ne laisse pas tomber les Iraniens non plus. Donc il se livre à un jeu subtil, d'équilibre, dans une zone où finalement tout le monde a des alliances plus ou moins circonstancielles et quelques-unes contre nature.
Est-ce qu'on peut comparer les politiques étrangères russes et turques? Voilà, de modèles de politique étrangère plutôt pragmatiques et flexibles vis-à-vis, par rapport aux Européens qui sont plutôt intransigeants, qui préconisent souvent le changement de régime.
Oui, mais les Européens, ils parlent beaucoup, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, du point de vue de l'action, bon, on a dit au démarrage, les Européens étaient pour la liquidation du régime de Bachar el-Assad. Finalement, à la réflexion, ils se sont rendus compte qu'en définitive, M. Bachar el-Assad ne visait pas la destruction de l'Occident, mais que c'était plutôt le projet du Daesh. Donc il a bien fallu changer de fusil d'épaule sans lâcher le fusil. Mais en fin de compte, c'est ceux qui avaient une volonté qui, d'une façon générale, s'en sont sortis le mieux, à savoir les Russes, d'une part, et à sa façon, M. Erdogan, qui a navigué avec des cartes relativement limitées pour s'imposer.
Pourquoi? Parce que les Européens ne comprennent pas le rapport de force? Ou qu'ils ne veulent pas l'utiliser?
Les Européens n'assument plus les rapports de force.
Pourquoi?
Parce qu'ils sont désunis. Parce que, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une politique européenne commune en dehors des déclarations? Non. Non. L'Europe reste verbalement attachée à un certain nombre de valeurs, mais qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain pour défendre celle-ci, du point de vue de l'action, du point de vue de la volonté d'agir? Bon, c'est un acteur tout à fait secondaire.
Parce que aussi, elle a peut-être peur de mettre les mains dans le cambouis.
Peur de quoi?
De mettre les mains dans le cambouis.
Oui, enfin, elle a peur, disons de façon générale, que son action ait des conséquences défavorables. Est-ce qu'elle est prête à les assumer? Est-ce qu'elle est prête à payer un prix? Voilà. Quand on fait quelque chose, il faut être prêt à payer un prix. les Européens, ils veulent payer le moins possible, dans la mesure où les opinions publiques européennes sont extrêmement frileuses. La moindre victime fait problème. Vous avez vu que quand il y a 3 morts, on est obligé de les amener en grande pompe pour saluer les victimes de quelque chose, etc. Bon, il fut un autre fois, pas si lointain, où on pouvait perdre plusieurs centaines d'hommes, et puis voilà, c'est tout. C'était la guerre. Aujourd'hui, sur la base que, en principe, on ne veut pas de victimes, ben, forcément que ça réduit beaucoup votre capacité d'agir.
Est-ce que l'OTAN est en fin de vie avec la Turquie qui, visiblement, ne partage pas les mêmes objectifs que ses partenaires européens et américains ?
Ben, y a ceux qui veulent défendre l'OTAN, et effectivement, l'OTAN continuera, à mon avis, d'exister. Ceci dit, le fait d'avoir adopté le S-400 russe a créé un sérieux problème entre la Turquie et l'OTAN. Et en même temps, M. Erdogan ne veut pas quitter l'OTAN, parce que ce qu'il voudrait, c'est il voudrait le soutien de l'OTAN pour défendre ses positions, qui sont d'une façon générale des positions qui n'arrangent pas les Européens. Donc il est dans une situation extrêmement ambiguë, en étant un allié, tout en refusant la règle du jeu des alliés, et en demandant à ses alliés de travailler contre eux-mêmes.
On parlait donc des Européens. Quel est le bilan des États-Unis au Moyen-Orient ?
Médiocre. Si on se reporte aux années du début du siècle, il s'agissait de remodeler le Grand Moyen-Orient en 2003, si vous vous souvenez bien. Remodeler le Grand Moyen-Orient, ça voulait dire s'occuper du Maroc jusqu'à l'Afghanistan et voir ce que les États-Unis pouvaient y faire. Il y avait un sentiment, une fois l'Union soviétique, en fin de compte, éclatée, disparue, il y a eu un sentiment extraordinaire de puissance absolue, puisqu'il n'y avait plus de numéro 2, ni 3, ni 4, ni 5. Les États-Unis ont connu la dernière période de toute puissance dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000. Le projet de remodeler le Grand Moyen-Orient, ça faisait partie de cette espèce d'hubris. Ça y est, ben voilà, on a tous les moyens, etc. On va plier la réalité à nos intérêts. Et puis ils se sont rendus compte que, une fois au sol, ils n'étaient pas considérés seulement comme des libérateurs, mais assez rapidement comme des occupants. En Irak, ça n'a pas marché. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une résistance indiscutable au début des sunnites, mais pas seulement des sunnites. D'une certaine façon, on peut dire que le Daesh, c'est un produit de l'intervention américaine. Ensuite, ils ont perdu la guerre psychologique en 2004 avec les photos publiées du scandale sexuel de la prison de Abu Ghraib, avec cette image de la jeune femme tenant un prisonnier irakien à quatre pattes comme un chien, etc., photo qui s'est promenée partout. Et en fin de compte, M. Obama, qui était opposé à la guerre en Irak, bon, il a dit en 2011, on se retire. Lui, ce qu'il voulait, c'est régler l'affaire en Afghanistan. Or, il ne s'est pas rendu compte qu'en Afghanistan, il était bien trop tard pour réagir. Le rapport McChrystal a été très franc là-dessus. Il a envoyé un général pour faire un rapport qui a été publié dans le Washington Post, où en gros, ce général qui ne faisait pas de cadeaux, il a d'ailleurs été remercié après, a dit, écoutez les gars, vous sortez jamais les bases, et quand vous en sortez, c'est en force. En fin de compte, je vais vous le dire franchement, alors en anglais, il leur a dit, you know guys, you're not in Afghanistan, you're in transit. Vous savez les mecs, vous êtes pas en Afghanistan, vous êtes en transit. Psychologiquement, vous n'êtes pas là. Et il avait raison, les troupes américaines étaient en transit. Et ils avaient en face des gens qui étaient décidés, quelle que soit l'intelligence ou l'absurdité de leur idéologie, à risquer leur vie et éventuellement à la perdre. Et la véritable irrégularité dans la guerre irrégulière, c'est pas le fait qu'il y en ait un qui dispose d'un armement supérieur, c'est qu'il y en a un qui dispose idéologiquement d'une motivation beaucoup plus grande. Voilà. Donc c'est un fiasco complet, la politique américaine. Monsieur Trump, qu'on a eu tort de sous-estimer, lui, il a compris une chose. Il ne faut pas envoyer des troupes au sol, il faut à la place, dans le cas de l'Iran, l'embargo.
Mais Obama, justement, avait commencé avec les drones.
Oui, les drones, il a commencé, tout en prétendant qu'il était pour la paix. Effectivement, il a été beaucoup plus, comment dirais-je, agressif qu'il y paraît. Mais enfin, ça ne réglait pas le problème. Alors que Trump, il a carrément dit, bon, ben voilà, vous êtes avec Téhéran ou vous êtes avec Washington? Les Européens ont dit, non, on veut toucher à rien, on garde les choses en l'état. Et puis finalement, ils ont dit, ben oui. Voilà, c'était un diktat auquel les Européens ont voulu s'opposer, puis ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, qu'ils n'avaient pas les moyens de dire non, et ils ont obtempéré. Alors dans la pratique, ça ne coûte rien à M. Trump d'avoir un embargo sur l'Iran, et les Iraniens, eux, ils en bavent. Au régime, c'est très dur.
Washington vient de signer d'ailleurs un accord de paix et de retrait d'Afghanistan avec les talibans. Trump a ordonné aussi le retrait du nord-est de la Syrie. Est-ce qu'on peut dire que Trump est isolationniste ?
Non. Non. Monsieur Trump ne veut pas de guerre qu'on ne peut pas gagner. Il veut donner l'image d'un président qui ramène les troupes à la maison, mais pas n'importe comment. Par exemple, à un moment, il avait exprimé le désir de retirer les troupes d'Afghanistan, qui sont 12 000. Puis ses généraux lui ont dit, Monsieur le Président, si on retire les 12 000 hommes, les talibans vont être à Kaboul avant les élections américaines. Bon, ben, il les laisse en tant que force de dissuasion. Donc il n'est pas isolationniste, simplement, il est absolument opposé à cette dispersion de forces dans des zones où il n'y a pas de victoire possible, et au contraire, à se bien rappeler que finalement, l'adversaire des États-Unis, c'est la Chine. Le véritable match pour l'avenir, c'est entre les États-Unis et la Chine, et de ce point de vue-là, malgré les apparences, M. Trump est sur une relative défensive.
D'accord. Voilà. Est-ce que les Chinois sont à l'offensive ?
Les Chinois sont à l'offensive avec intelligence, avec main de fer, dans grande velours.
D'accord, donc c'est le piège de Thucydide.
Oui, c'est ça.
D'accord. Et donc, en gros, le Moyen-Orient ne les intéresse plus réellement, en fait.
Ils sont ce qu'il faut comme présence. Ils gardent l'allié saoudien, parce qu'il est riche et en définitive totalement dépendant des États-Unis. Mais le Moyen-Orient a perdu l'importance qu'il avait il y a une quinzaine d'années, c'est indiscutable, avec le schiste, etc. Enfin, les Américains ont contourné le problème de l'absolue nécessité de dépendre du pétrole moyen-oriental.
Vous vous rendez souvent en Irak, où vous donnez des cours de géopolitique. Entre Washington et l'Iran, où est-ce qu'en est le pays, en fait ?
Où est-ce qu'on en est ?
Ouais.
Ben aujourd'hui, entre Washington et l'Iran, on se livre un sévère match de torsion de bras sur Bagdad. C'est-à-dire que c'est l'Irak l'enjeu. Est-ce que l'Irak va rester influencé fortement par la présence iranienne ? Ou est-ce qu'au contraire, les forces anti-iraniennes vont l'emporter ? Je n'ai pas de réponse. C'est ce qui se passe en ce moment sous nos yeux, et les Iraniens ont l'intention de très ferme de conserver au maximum leur influence.
Oui, mais l'Iran est quand même assez asphyxié par les sanctions américaines. Comment Téhéran peut s'en sortir ? Est-ce que la volonté justement de Trump de changer de régime en Iran, est-ce que c'est possible ça ?
Ça va dépendre de l'épaisseur du nationalisme, c'est-à-dire que les Iraniens ne sont pas des dingues du chiisme et du régime, hein. Mais par contre, les Iraniens sont des nationalistes, très forts.
Et est-ce que l'assassinat, justement, de Soleimani a renforcé ce nationalisme ?
Il l'aurait renforcé, oui. Par exemple, la perception de l'assassinat de Qassem Soleimani du côté américain, c'était, bon, on a abattu un adversaire redoutable.
Un terroriste, oui.
Voilà. Enfin, un terroriste, bon.
Enfin, selon eux.
Oui, bon, c'est vite distribué, terroriste. Ouais. Mais en tout cas, c'était un adversaire redoutable. Bon. Perçu par l'opinion publique iranienne, c'était toucher à un membre du nationalisme iranien. Ce n'était pas tellement l'expression du régime chiite. Malheureusement pour les Iraniens, ils ont après abattu cet avion ukrainien, là, qui était absurde. En plus, ils ont nié le fait, ce qui fait qu'il y a eu des protestations en disant, voilà, vous vous avez trompé. L'impact nationalitaire a été en quelque sorte gâché par l'imbécilité de ceux qui ont décidé de frapper cet avion.
D'accord. Merci beaucoup.
Je vous en prie.